Chapitre 20. Ami, je vais maintenant te révéler comment protéger ta fragile fleur, comment mettre ton trésor le plus précieux à l'abri de ceux qui le convoitent, comment préserver la liberté de ton âme. Ami, as-tu remarqué que toute chose ici-bas se compose de vibrations, d'ondes, de lumière? As-tu entendu le chant subtil de l'univers? Voici le secret. Il est tellement simple qu'il te paraîtra puéril. Ouvre ton âme, ouvre ton cœur et laisse-toi bercer par le son. Extrait du Sermon du Kreutz sur les dunes du grand désert d'Osgore. Petit livre-film découvert dans la bibliothèque interdite du palais épiscopal de l'église du Kreutz.
Cette nuit,
avaient dit les vicaires masqués à l'issue de la dernière réunion dans le caveau des châtrés. Cette nuit. Par ces deux mots, ils avaient désigné la condamnation à mort du moufti barophile le 24e. Cette nuit. Le cardinal Francis Bogg, nouveau secrétaire général de l'église du Kreutz, ne voyait pas très bien comment ils pourraient mettre leur projet à exécution. Le moufti s'entourait d'un tel luxe de précautions qu'il paraissait impossible d'attenter à la vie de son auguste personne. Lorsqu'il recevait des personnalités extérieures au palais épiscopal, il était entouré, plus ou moins discrètement, d'innombrables gardes du corps, d'anciens mercenaires de Prityv rompus à tous les arts de combat. Lorsqu'il ne recevait pas, il se retirait dans ses appartements de la tour Mufiale, une forteresse truffée de passages secrets, de labyrinthes, de pièges, de pièces blindées, isolées. Comment les vicaires s'y prendraient-ils pour atteindre Barophile le 24e? Ils ne mangeaient que des mets préparés par son cuisinier personnel, un Julien, un ex-adepte de l'hérésie Goudourayam, qu'il avait sauvé de la croix de feu et qui lui était dévoué corps et âme. Ce qui n'empêchait pas le moufti de faire goûter chaque plat à des singes domestiques et d'observer longuement leur réaction avant de porter la nourriture à sa propre bouche. Il avait cessé toute relation sexuelle avec les enfants que lui fournissaient ses anciennes âmes damnées, dont le cardinal Fragius Molanaliful, l'ancien secrétaire général. Francis Bogg avait été outré d'apprendre que le pasteur infaillible, le chef suprême de l'église du Kreutz, se livrait à d'abominables pratiques pédophiles, et cette information, que des âmes bien intentionnées s'étaient empressées de lui divulguer, l'avait renforcée dans sa détermination. Les vicaires étaient dans le vrai. Il était urgent de se débarrasser d'un tel monstre de perversité. Un homme qui régnait sur des centaines de milliards d'âmes se devait de montrer l'exemple, d'être un modèle de vertu et de piété. On ne pourrait donc pas barder de poison les orifices naturels des innocentes victimes de sa convoitise, ou encore de micro-bombes à fraction qui auraient déchiqueté le moufti au moment où. Que Kreutz le prenne en pitié. Et c'était probablement beaucoup mieux ainsi. Assassiner le pasteur infaillible par l'entremise de ses enfants aurait eu quelque chose d'amoral, d'exécrable. Les vicaires ne pouvaient pas non plus utiliser les services de tueurs professionnels, car ceux-ci étaient immédiatement détectés par les infrarayons et par les morphopsychologues qui, sur des écrans bulles géants, examinaient et filtraient les visiteurs. Restait bien sûr la solution de l'effacement ou de la mort mentale. Le sénéchal Harcott, que Francis Bogg soupçonnait d'être partie prenante dans la conjuration, avait certainement la possibilité de remplacer un protecteur ou un inquisiteur par un effaceur ou par un tueur mental. Ce genre de substitution était une pratique courante à la cour impériale. L'ancien gouverneur du Djen, qui, de par sa fonction, avait souvent l'occasion de rencontrer le sénéchal, il était désormais le principal agent de liaison entre les pouvoirs spirituels et temporels de Langempire, avait tenté de sonder son mystérieux interlocuteur. Il se sentait mal à l'aise devant Harcott, mais si les vicaires parvenaient à déposer Barophile le 24e et à le hisser sur le trône pontifical, ils devraient apprendre à surmonter cette aversion. Les protecteurs et inquisiteurs du moufti ressortent-ils de votre autorité, Excellence ? Avait-il négligemment demandé au cours d'une soirée où le sénéchal et le secrétaire général s'étaient retrouvés en tête à tête. Les impénétrables yeux noirs de son vis-à-vis s'étaient posés sur lui et l'avaient fixé un long moment.
« Bien entendu, votre éminence, » avait-il enfin répondu de cette voix métallique, impersonnelle, qui vrillait les tympans de ses interlocuteurs humains.
« Pourquoi cette question ?»«
Eh bien, je ne suis pas syracusain comme vous ne l'ignorez pas, et, en tant que nouveau secrétaire général, je m'informe des usages de la cour et de l'Église. Je pensais que la responsabilité des scaïtes affectés au service du moufti ne vous incombait pas, étant donné la primauté du pouvoir spirituel sur le pouvoir temporel.
Avant d'être les serviteurs des hommes, les scaïtes sont mes complanétaires, régis par des lois différentes de celles des mondes humains. Seul un scaïte des échelons supérieurs est apte à transmettre des ordres à ses subordonnés. Il ne s'agirait pas qu'il fasse n'importe quoi sous de vains prétextes de primauté spirituelle.
Francis Bogg avait cru déceler des menaces dans les paroles du sénéchal. Il lui avait clairement fait comprendre que rien de ce qui concernait l'Angempire, aussi bien sur le plan temporel que sur le plan spirituel, ne lui était étranger. Cet avertissement prouvait également qu'Arcote le considérait d'ores et déjà comme un interlocuteur recevable, et cette reconnaissance implicite l'avait flatté. Arcote ne lui avait pas dévoilé que ses complanétaires et lui-même étaient désormais inopérants sur le cerveau de Barophile le 24e. C'était la raison pour laquelle le troisième conglomérat avait décidé d'éliminer physiquement le souverain pontife. Après avoir été pendant plus de 20 ans le plus efficace des alliés, l'actuel moufti, totalement imperméable à l'effacement et à la mort mentale, était devenu un opposant, un ennemi, un obstacle. Il ne s'était pas reconnecté à ses pouvoirs d'humain source, comme la fille Alexou ou Tixuoti l'orangien, mais il avait développé son contrôle mental à un point tel qu'il repoussait toutes les intentions de dissolution ou de mort des effaceurs et des tueurs mentaux qu'Arcote avait placés dans son entourage proche. La méfiance de ce vieillard retors protégeait son esprit comme une carapace épaisse et rigide. Le chef spirituel de l'univers était tellement ancré dans la matière qu'il en arrivait à cristalliser ses pensées. Arcote avait dû confesser son impuissance au vicaire.
« Nous devrons employer une autre méthode, frère du vicariat. Les tueurs mentaux et les effaceurs n'obtiennent aucun résultat tangible sur l'esprit du moufti. »
Cet aveu avait plongé les conjurés dans un abîme de perplexité.
N'en sera-t-il pas de même avec certains hérétiques, Excellence ? Ne résisteront-ils pas à l'effacement ?
Les probabilités sont infimes, pour ne pas dire nulles. Le moufti est l'exception qui confirme la règle. Il s'accroche avec une telle force à la vie, à la matière, que son inconscient repousse toute idée, toute pensée de réduction ou de mort. Et puis, pour ceux que la manière douce ne réussirait pas à convertir, il nous resterait la manière forte, les croix de feu.
Vous ne nous facilitez guère le travail, Excellence,
avait grommelé une voix filtrée par le masque. Les masques, des objets dérisoires pour qui s'est sondé un esprit.
À vous de trouver une solution, frère du vicariat. Après tout, le remplacement de l'actuel moufti est le fruit de votre désir, de votre volonté.
Désir et volonté implantés par des effaceurs. Donner aux humains l'impression qu'ils décident tout par eux-mêmes, flatter leur minuscule égo, et ils foncent tête baissée dans tous les pièges, y compris les plus grossiers qui leur sont tendus.
Nous prenons note, Excellence. Nous nous débrouillerons par nous-mêmes. Mais nous nous souviendrons de votre manque de coopération.
Les humains, plus ils se séparent d'eux-mêmes, et plus ils se croient obligés de se rengorger, de se gonfler d'importance. Pourtant, il ne leur reste pratiquement rien de leur extravagant pouvoir.
Ils se sont déjà identifiés aux formes, aux ondes, aux apparences, et l'hyponéros, niché dans leurs failles, les ronge insidieusement. Bientôt, ils ne seront plus que des portes ouvertes sur le néant, des trous noirs, des enfants de l'incréé. Puisque les effaceurs et les tueurs mentaux ne peuvent venir à bout de Barophile le 24e, laissons-les se débrouiller entre eux. De tout temps, ils ont su faire preuve d'intelligence pour s'entretuer. De tout temps, ils ont préparé l'avènement de l'hyponéros. Les vicaires s'étaient drapés avec une fierté grotesque dans les pans de leur surplis noir.
« Nous utiliserons nous-mêmes les services d'un effaceur, Excellence !»
avait lancé l'un d'eux avant de s'engouffrer dans un des passages souterrains du caveau des châtrés. «
Vicaire, vous êtes déjà noir, vous êtes déjà les fils de l'hyponéros. Vous vous érigez en ultime défenseur de la loi, en paragon de vertu, et vous n'êtes que les premiers fossoyeurs de l'humanité. Barophile n'est pas pur au sens où vous concevez la pureté. Et d'ailleurs, si vous avez sacrifié vos organes sexuels, c'est que vous aviez peur de votre propre impureté. Mais il a le mérite d'exister en tant qu'égo souverain, en tant que centre, en tant que royaume aux frontières consolidées. Qu'est-ce qui est préférable, vicaire? Vivre dans la frustration et la négation de soi, ou vivre dans le stupre et l'exaltation de soi? Bienvenue dans le non-univers, frère du vicariat. Un serviteur avait reconduit Arcote dans le labyrinthe des couloirs du palais épiscopal. La guerre de succession faisait rage dans les rangs des 5000 cardinaux de l'Église. Elle avait au moins le mérite de les empêcher de se focaliser sur la nomination de Francis de Bogue au poste de secrétaire général, le deuxième par ordre d'importance dans la hiérarchie ecclésiastique. Les féaux de la pourpre avaient pourtant tous les motifs de se montrer mécontents. Pour la première fois dans la longue histoire du greugianisme, cette prestigieuse fonction avait été conviée à un non-syracusain, à un paritole, à un homme âgé de moins de 30 ans. Phraciste avait senti, çà et là, quelques oppositions, avait essuyé quelques attaques, quelques rebuffades, quelques perfidies. Mais il n'avait pas été soumis à l'infernale pression qu'avait évoquée Barophile le 24e lors de leur dernière conversation. Ce manque de réaction tenait sans doute au fait que les cardinaux avaient d'autres chats à fouetter. La nouvelle élection muffiale accaparait toute leur attention, et le poste de secrétaire général n'était pour l'instant qu'un objet de tractation. On considérait la nomination du jeune Marquinatin comme une erreur de plus accréditée au compte de Barophile le 24e, une erreur que le nouveau moufti s'empresserait de corriger. Les rumeurs les plus folles se répandaient comme des ondes lumineuses dans les couloirs du palais épiscopal de Vénitia. Les uns prétendaient avoir aperçu le cadavre du souverain pontife, les autres soutenaient qu'il agonisait dans d'atroces souffrances, d'autres affirmaient qu'il avait encore frotté avec des enfants la seconde nuit dernière, d'autres enfin qu'il avait définitivement perdu la raison et qu'il errait entièrement nu, comme Dame Véronique de Motor, dans les multiples pièces de ses appartements. Il avait suffi de fuites savamment orchestrées par les vicaires et d'une brutale recrudescence d'attentats dirigés contre le souverain pontife pour que s'exacerbe la volonté de chacun d'occuper le trône suprême, d'ores et déjà considéré comme vacant. D'après les renseignements qu'avait recueillis Francis de Bogue, ils étaient encore une centaine dans la course. Chacun des 100 avait ses chauds partisans, chaleur promotionnelle à l'importance des promesses, et ses pires détracteurs, hostilité proportionnelle à l'importance des promesses du rival. Chacun se targuait de relations privilégiées avec les plus grandes familles syracusaines. Chacun vantait ses richesses, son sens politique, et puis chacun était un serviteur du Greutz en ces mondes de l'en bas. Chacun se prévalait de sa piété, de sa dévotion, de sa stricte observance des commandements de l'Église.
calomnies et panégyriques se multipliaient sous les chasubles mauves. Fraciste Bog n'avait pas fait acte de candidature, conformément aux instructions des vicaires.
« Mais il serait capable de vous assassiner. Nous devons les cueillir par surprise. »
Nombreux étaient les candidats plus ou moins déclarés qui s'étaient engouffrés dans son immense bureau. Quel luxe en regard de ces appartements délabrés d'Anjor. Pour lui soutirer une promesse de vote, mais il s'était désempêtré des encombrants visiteurs en prétextant l'impartialité de ses fonctions et de son ministère. Il l'avait fusillé du regard, avait haussé les épaules d'un air méprisant. Les paritoles ne comprenaient décidément rien aux subtilités vénitiennes et avaient tourné les talons. Les huissiers, en livrée et col en corps blanc, qui veillaient dans l'antichambre, les avaient dissuadés, davantage que leur contrôle à PD, de claquer violemment la porte. L'ancien gouverneur d'Ugen disposait désormais de 6 protecteurs de pensée. Chaque mois du calendrier syracusain, il touchait une prébende de 20 000 unités standards, somme qui, malgré la cherté de la vie vénitienne, suffisait largement à couvrir ses besoins. D'autant qu'il n'était sous l'emprise d'aucun de ses vices aux coûts exorbitants, pédophilie, nécrophilie, microstasie, gourmandise, qui était le pain quotidien de ses pairs. Les grands courtisans venaient souvent le solliciter pour de menus détails d'étiquette, l'attribution d'un siège permanent au grand temple, les grâces préférentielles, les prières nominatives, détails qui recouvraient le plus souvent des menaces voilées ou des renseignements d'importance. Il apprenait peu à peu à décoder le langage courtisan, ou l'art d'insinuer les plus grandes perfidies, les dénonciations, les chantages, dans des phrases d'apparence badine.
« Ces gens sont charmants, votre éminence. Leur place au temple est, comment dire, peu représentative de leur qualité. La vieillesse du père, le sieur de Fondel, a été marquée du sceau de la piété et de la générosité. »
Traduction. Ces gens-là n'ont rien à faire dans les travées d'honneur du temple, car le sieur de Fondel, cet impie, ne s'est acquitté que très tardivement du denier du culte. À ce petit jeu-là, les femmes se montraient plus subtiles, plus redoutables que les hommes. Depuis que Dame Sibrite, la première dame de Langempire, avait mystérieusement disparu, les courtisanes prenaient d'assaut le palais épiscopal. Elles employaient tous les moyens, jouaient de leur charme pour obtenir une entrevue particulière avec le moufti et plaider leur cause. Chacune était la mieux placée, la mieux née, la mieux faite, la mieux fertile, la mieux pieuse, la mieux amante, pour faire oublier à l'empereur la gourgandine provinciale, la catin qui avait eu l'audace de lui refuser un héritier, l'énorme scandale qui avait résulté de l'apparition de Dame Véronite de Motor, nue et tremblante de honte dans les couloirs du palais impérial, avait fini de discréditer Dame Sibrite. Ainsi d'ailleurs que Dame Véronite, qui avait prétendu l'imprudente que sa poitrine et ses fesses d'airain étaient dignes des sculptures de l'âge classican. Comme le moufti refusait catégoriquement de recevoir les prétendantes, c'est le secrétaire général qui essuyait leur minauderie, leur simagrée, leur battement de cils, leur jeu de lèvres et de mains, parfois même leurs inavouables propositions. Les plus acharnées restaient les douairières, les gardiennes de l'étiquette. Elles œuvraient depuis des mois pour l'annulation du mariage, et maintenant que la brèche était ouverte, elles s'y engouffraient comme des punaises carnivores et surexcitées. L'important dispositif de recherche qui avait été mis en place pour remettre le grappin sur Sibrite de Majahi n'avait donné aucun résultat concret. L'impératrice était demeurée introuvable. Au bout d'un mois, les huissiers avaient introduit 2 maîtres du protocole dans le bureau du cardinal Bog. Ces derniers lui avaient annoncé que Menati Imperator souhaitait traduire par contumace Dame Sibrite, son épouse disparue, devant un tribunal sacré.
« Pour quel motif ? Fait de sorcellerie !»
L'organisation de ce procès avait incombé au secrétaire général. Il lui avait fallu d'abord trouver une date qui contenta tout le monde, tâche qui s'était révélée particulièrement ardue, compte tenu de la position sociale de tous les intervenants et témoins spontanés, plus de 300 grands courtisans. Puis il avait dû nommer les 10 cardinaux du jury au cours d'un conclave spécial. Ne sachant trop comment s'en tirer, il avait tout simplement désigné les 10 plus anciens. Au dire des exarques et des vicaires, il s'en était très bien tiré. Sa décision n'avait mécontenté qu'une centaine de jeunes prélats, pour qui l'aspect exceptionnel du procès de l'impératrice de l'univers représentait une belle opportunité de s'attirer les grâces des grandes familles. Francis Tebog s'était souvenu de sa conversation avec Arcote et l'avait prié de choisir lui-même les 3 inquisiteurs spéciaux. Il avait enfin rencontré Menati Imperator pour lui soumettre la première ébauche de son projet et l'empereur avait approuvé le tout d'un mouvement du menton. Le secrétaire général avait ainsi fait d'une pierre 3 coups. Il avait satisfait le maître temporel de l'univers, le sénéchal, et n'avait pas trop froissé la susceptibilité de ses pairs. Le procès, solennel, conformément aux vœux de Menati Imperator, débuterait dans quelques semaines, le 6 de Saint-Brius, l'avant-dernier mois de l'année syracusaine. Il commencerait en l'an 16 et s'achèverait probablement en l'an 17. L'issue n'en faisait aucun doute, étant donné le nombre de témoins à charge. La seule personne qui se fût portée volontaire pour assurer la défense de l'accusé était Dame Alacaïte de Flel, l'ancienne dame de compagnie de Dame Sibrite. Admirable d'abnégation, de dévotion, ce petit bout de femme, aussi laide que sa maîtresse avait été belle, risquait tout simplement d'être accusée de complicité et condamnée au supplice de la croix de feu à combustion lente. Comme on ne tenait pas la fautive, on risquait fort de se venger sur la comparse, et Francis Tebog ressentait de la compassion pour Dame de Flel. Le tout Vénitia était en ébullition. Les couloirs et les rues bruissaient d'une activité fébrile, bourdonnante. Syracusa, le centre de l'univers, la planète des arts et du goût, se préparait à accueillir un nouveau souverain pontife et une nouvelle impératrice. Cette nuit, justement, le cardinal Bog se rendait chez Barofil le 24e pour mettre à jour son agenda et éplucher la liste de tous les importuns qui avaient sollicité un entretien particulier avec le souverain pontife. Comme il n'avait reçu aucune consigne particulière des vicaires, il n'envisageait pas de renoncer à cette visite de routine. Cette nuit. Debout devant la baie vitrée qui donnait sur Rome Antigua, le cœur historique de la capitale vénitienne, le secrétaire général contemplait le second crépuscule. Soleil saphir se couchait à l'horizon, parant la voûte céleste de somptueuses teintes mauves, indigo, turquoises. Les larges avenues comme les étroites ruelles de l'agglomération étaient des fleuves de lumière bleue. Les Vénitiens goûtaient la fraîcheur caressante du vent Coriolis, se répandaient sur les trottoirs, se rassemblaient sur les places, autour des fontaines d'Optalium, dans tous les endroits où se donnaient des spectacles de mime tridimensionnelle, de jonglage d'éromates, d'illusions holographiques. Les galiotes enluminées glissaient silencieusement sur l'eau paisible et la lapis-lazuli du fleuve Tibère à Augustus. Il y avait autant de différence entre Vénitia et Anjor, la capitale d'Udgène, qu'entre un impur habillé de soie précieuse et un pur vêtu de harde crasseuse. Les Utigéniens étaient des gens frustes, simples et francs. Les Syracusains se révélaient aussi tortueux et calculateurs que leur plumage était chatoyant. Francis Tebog ressentait de temps à autre de virulentes pointes de nostalgie de la planète Udgène et de son ciel éternellement maussade. Là-bas, il avait exercé un sacerdoce. Ici, il faisait comme tout le monde. Il négociait, il complotait, il intriguait. Des coups ébranlèrent le silence. Il s'approcha de son bureau de bois de Rheinthal et, du pied, pressa le mécanisme d'ouverture de la porte codée, encastrée dans le carrelage de marbre gris. Un novice en col en corps et sur plis blancs s'introduisit dans la pièce et s'inclina. « Le moufti vous attend,
votre éminence. Déjà, nous ne devions pas nous rencontrer dans 2 heures.
Un changement de programme, votre éminence.
Qu'est-ce qui me prouve votre bonne foi? L'ancien gouverneur du Djen avait déjà appris la méfiance. Il était déjà gangréné par l'ambiance paranoïaque qui régnait dans le palais épiscopal. Cette constatation abandonna une écume d'amertume dans sa gorge.
« Pax Crudiana, »
dit le novice. Fraciste Bog hocha la tête. Ces 2 mots étaient un code entre le souverain pontife et le secrétaire général. « Je viens, le temps de prendre mon mémodisque. » Installé dans une profonde banquette à suspension d'air, Barophile le 24e l'attendait dans une pièce sobrement meublée de ses appartements. Comme à chaque fois qu'il pénétrait dans la tour des Mouftis, le cardinal Bog avait dû laisser ses 6 protecteurs de pensée dans le vestibule et subir un nombre incalculable de fouilles corporelles humiliantes, sans compter les détours pour passer sous les détecteurs infra ou devant les objectifs des caméras bulles reliées aux écrans de morphopsychologues. Le moufti ne s'était pas apprêté, et sa peau usée, ridée, parcheminée, contrastait fortement avec le blanc lisse du cache-tête de son col en corps, orné d'un liséré d'optallium rose. Sa chasuble, également blanche, s'ornait de motifs spiraux changeants. À l'annulaire de sa main droite brillait l'anneau pontifical, l'énorme corindon julien à plus de 200 facettes que les pasteurs infaillibles s'étaient transmis de génération en génération depuis plus de 50 siècles. Ses petits yeux noirs et renfoncés, soulignés de cernes brun foncé, se posèrent sur le secrétaire général.
« Bonsoir, cardinal Bock, » murmura-t-il d'une voix lasse. « Veuillez vous asseoir. »
Il tapota de la main le dossier de la banquette. Fraciste Bog déposa un baiser furtif sur le corindon de l'anneau et prit place aux côtés du moufti. « Bonsoir, votre sainteté. » Barophile le 24e s'éclaircit la gorge. Sa pomme d'Adam, aussi saillante qu'une lame de couteau, oscilla sous la peau de son cou barrée de profondes stries verticales. Le cardinal perçut le subtil grésillement des filtreurs d'air encastrés dans les moulures des linteaux des portes. Les vicaires ne gazeraient pas l'endroit aussi facilement qu'il avait lui-même gazé le terrarium nord d'Anjor. Il arrivait parfois à l'ancien gouverneur du Djen de regretter l'extermination massive de ses quarantains. N'était-il pas, bêta zoomorphe ou non, des créatures du Kreutz? N'avait-il pas reçu une âme comme les humains saints? Les mères contaminées n'aimaient-elles pas leurs enfants comme n'importe quelle mère humaine?
Vous vous demandez probablement pourquoi nous avons avancé l'heure de notre entretien, reprit le moufti.
Je suis intrigué, je vous l'avoue. Barophile libéra un petit rire enroué. Ses mains osseuses retombèrent de chaque côté de son corps.
« Cher cardinal Bog, comme vous voilà empêtré dans votre contrôle mental. Un Syracusain aurait répondu une banalité du genre « Il n'y a pas d'heure pour vous servir » ou encore « Vous pouvez compter sur ma dévotion à toute heure du jour et de la nuit. » Les Syracusains ont élevé l'hypocrisie au rang d'un art. Ils se sont empressés de la renommer « contrôle, auto-psyché et défense », concept qui revêt tout de même un aspect plus présentable, plus noble que le mot « hypocrisie ». Où en êtes-vous du procès de Dame Sibrit?
Tout est prêt, votre sainteté. Il débutera comme prévu le 6 de Sambrius.
Et elle sera condamnée comme prévu.
Fraciste Bog fixa son auguste interlocuteur avec une ardeur indigne du contrôle des émotions. « Osez-je comprendre que vous n'approuvez pas ce procès, votre sainteté ?»«
Osez, cardinal Bog. Dame Sibrit de Majaï était, mais est encore peut-être, la personne la plus clairvoyante de Vénitia. » Le procès qu'on lui a intenté n'est qu'un prétexte pour l'éliminer et traîner son souvenir dans la boue. Cependant, et nous vous en félicitons, vous vous êtes sorti de ce buisson d'épines que représente la mise en place du tribunal d'exception avec les honneurs. Vous avez réussi ce tour de force de n'égratigner personne.
Pourquoi n'êtes-vous pas intervenu publiquement si vous désapprouvez ce procès en sorcellerie ?
Parce que notre intime conviction nous a poussé à voir au-delà de l'événement proprement dit, à progresser avec une extrême prudence.
La moufti se leva et, de son allure dandinante, se dirigea vers la baie blindée qui donnait sur le patio extérieur.
« Je ne suis qu'un vieillard fatigué, un cadavre en sursis. Dame Sibrit était un symbole. » Et il aurait fallu un homme dans la force de l'âge pour s'élever contre ce procès. Un homme comme vous.
Veuillez pardonner mon ignorance, votre sainteté, mais je ne comprends pas de quelle symbolique vous voulez parler. Et si j'en juge par les rumeurs qui circulaient au sujet de l'impératrice, elle était surtout un symbole de vice et de cruauté.
Elle était... Elle est peut-être encore... comme tout un chacun, ni pire ni meilleur. Vicieuse et cruelle, certes, mais pas davantage que vous et nous, pas davantage que l'empereur. Elle a eu de nombreux amants, en a probablement assassiné quelques-uns, mais Menati Imperator a de nombreuses maîtresses et s'est hissé sur le trône impérial en faisant assassiner son propre frère, le seigneur Ranti. Et ses deux neveux, Jonati et Bernelfi. Nous sommes d'autant mieux placés pour vous l'affirmer, monsieur le secrétaire général, que nous étions nous-mêmes à l'origine de ce complot. Dans ce palais comme dans le palais impérial, il n'est pas de pouvoir sans tache de sang sur les mains. Il nous semble vous l'avoir déjà dit.
Francis de Bogue rejoignit le souverain pontife devant la baie vitrée. Il dominait d'une bonne tête l'auguste vieillard, qui semblait se tasser, se voûter, se rétrécir au fur et à mesure que s'égrenaient les jours. Abusait-il des solutions microstasiques ? La consommation régulière de cette drogue chimique, interdite depuis plus de 30 ans sur le sol de Syracusa et de ses satellites, largement répandue chez les cardinaux, exarques et grands courtisans, expliquait peut-être son exceptionnelle longévité, la vivacité préservée de son esprit malgré les signes extérieurs de ses naissances. « Je ne crois pas avoir de sang sur les mains, » avança le secrétaire général. Le moufti leva ses yeux ironiques sur son subordonné.
« C'est faire bien peu de cas des hérétiques que vous avez expédiés sur les croix de feu. » Peu de cas des millions de quarantains du djenn dont vous avez ordonné le gazage.
Ces gens-là étaient les ennemis de la foi,
protesta Francis de Bogue avec virulence.
C'était mon devoir d'homme d'église de les combattre.
Le sang d'un hérétique ou d'un croyant reste le sang d'un être humain, quelle que soit la justification que l'on apporte à son élimination.
Vous semez le trouble dans mon esprit, votre sainteté. Les écoles de propagande sacrée n'éduquent-elles pas les hauts dignitaires chrétiens dans l'idée obsessionnelle de châtier impitoyablement les infidèles, les païens, les adversaires de la foi? Ces écoles ne relèvent-elles pas de votre responsabilité, vous qui êtes le chef suprême de l'Église? Les yeux de Barophile le 24e devinrent des puits incandescents. Il posa la main sur l'avant-bras du cardinal, qui eut la désagréable impression d'être happé par un envoyé de la mort.
« Vous mesurerez vite, nous voulons l'espérer, toute la largeur du fossé qui sépare la hiérarchie de la base. Vous comprendrez que les lois qui s'appliquent aux troupeaux ne s'appliquent pas aux bergers. » Vous vous débattrez dans d'insolubles problèmes de conscience, dans les contradictions qui sont le lot des gouvernants, spirituels ou temporels. Au cours des siècles, l'Église s'est métamorphosée en un monstre affamé, de plus en plus difficile à contrôler.
C'est la principale raison de son exceptionnelle croissance. Ses besoins de nourriture vont grandissant, et nous lui jetons des âmes en pâture. Les milliers d'âmes des prélats et des vicaires, les millions d'âmes des missionnaires, les milliards d'âmes des fidèles. Nous avons engendré une bête féroce qui, pour survivre, dévore les membres de son immense corps. Et chaque jour que nous donne Creuil sans sa bonté, nous offrons de nouvelles âmes à son insatiable appétit. Le verbe du Creuil était un verbe simple, un hymne à la liberté humaine. L'église du Creuil est un ensemble complexe, une aveugle machine à broyer les individus. Voici ce que nous sommes devenus, cardinal Bog. Des robots, des clones.
Le moufti s'abîma dans la contemplation du second crépuscule, dont les bleus chatoyants se diluaient dans une encre indigo. Le croissant mordoré du premier des cinq satellites nocturnes de Syracusa coiffait la troisième tour du palais épiscopal. Si vous me le permettez, j'ai deux questions, ou plutôt trois, à vous poser, dit Franciste Bog. Barophile le 24e l'encouragea à poursuivre d'un signe de tête. Pourquoi ne vous êtes-vous pas exprimé plus tôt à ce sujet? Pourquoi m'en parlez-vous à moi? Et enfin, quel rapport ce discours a-t-il avec Dame Sibrit? Les lèvres rainurées du moufti esquissèrent une moue. Un sourire, peut-être.
Un Syracusain, maître de l'autopsyché-défense, aurait dit « Votre sainteté, votre analyse de la situation, tout à fait remarquable, rejoint mes propres préoccupations dans ce domaine. » Ce qui ne veut strictement rien dire, mais laisse planer un a priori favorable sur l'intelligence du flagorneur. Évoquons d'abord le cas de Dame Sibrit. Elle seule a été capable de percer, en partie seulement, le mystère des skaïtes d'Hyponéros. Nous parlons ici du connétable Pamynx et de son successeur, le sénéchal Arcot. L'impératrice a eu la sagesse de venir s'en entretenir avec nous. Elle jouit d'une faculté que d'aucuns jugent démoniaque et que nous préférons croire providentielle. Ses rêves sont prémonitoires. Elle capture des scènes fragmentées de l'avenir durant ses périodes de sommeil. Nous avions jusqu'alors accordé notre entière confiance aux skaïtes d'Hyponéros, et nous restions persuadés qu'ils agissaient pour le bien des humanités. Dame Sibrit nous a dessillé les yeux, et nous avons appris qu'elle avait effectué une démarche similaire auprès de son impérial époux, mais que ce dernier n'a pas souhaité l'entendre. Elle est en cela le symbole de la liberté humaine, et c'est ce symbole que le sénéchal Arcot et les siens s'acharnent à briser. Ils se fichent comme de leur première acabat, qu'elle ait répandu le sang des quelques hommes qu'elle a attirés dans ses quartiers.
Et quelles seraient, selon les rêves de Dame Sibrit, les intentions réelles du sénéchal?
Ah, cardinal Bog, c'est un véritable plaisir que de discuter avec vous.
Le secrétaire général crut un instant que le moufti, secoué par une quinte de toux, un rire, allait se disloquer, s'effondrer sur le plancher de bois précieux.
Nous ignorons les intentions précises du skaït Arcot, reprit le souverain pontife. Nous devinons seulement qu'il est l'agent en chef de l'anéantissement de l'humanité. Ce sera à vous, si vous en avez la force, de soulever tout le voile.
Pourquoi moi, votre sainteté? Bredouilla le cardinal.
Votre contrôle mental, monsieur le secrétaire. Vous êtes décidément un piètre comédien. Ne faites pas l'innocent. Vous ne réussissez qu'à souligner votre air coupable. Pendant que les candidats déclarés à notre succession se déchirent,
Le haut vicariat avance tranquillement son pion. Votre jeune et modeste personne. »
D'un geste péremptoire du bras, Barofil le 24e intima au secrétaire général, qui avait entrouvert la bouche pour protester, l'ordre de se taire.
« Laissez-nous finir, cardinal Bogue. Notre temps est compté. Les vicaires n'auraient pas eu les moyens de vous pousser sur le trône pontifical si nous ne leur avions pas suggéré votre candidature. Nous sommes au courant depuis le début de tout ce qui se trame dans les sous-sols du palais épiscopal, dans le caveau des châtrés plus précisément, et nous avons discrètement encouragé cette initiative. »
Un rictus barrait le visage chafouin du moufti. Un étau aux mâchoires puissantes comprimait la poitrine du cardinal, qui puisa dans ses réserves de volonté pour ne pas défaillir.
« Pourquoi vous ? Me demandiez-vous ? »
continua Barofil le 24e.
« Nous connaissons et apprécions votre caractère, monsieur le fils d'une lingère de la ronde maison aux 9 tours de Duptina. Nous sommes convaincus que vous êtes l'homme de la situation, la porte entrebâillée par laquelle soufflera le vent du renouveau de l'Église. De par vos origines modestes et votre fougue, vous êtes celui qui peut restituer le verbe du Kreutz à sa simplicité originelle. Vous êtes une lame tranchante, et vous aurez de nombreuses têtes à couper. La première que vous ferez rouler sera celle du sénéchal Arcot, la deuxième celle de Menati Imperator, les suivantes celles des hauts vicaires, des cardinaux et des grands courtisans. Elle est en substance la teneur de notre testament.
Votre testament ? Est-ce à dire que vous envisagez de nous quitter ?
Monsieur le secrétaire général, tout à l'heure, dans le caveau des châtrés, ne vous a-t-on pas soufflé ces deux terribles mots ? Cette nuit.
Une griffe d'effroi laboura les entrailles de Fraciste Bog. Il prenait tout à coup conscience qu'il n'avait été qu'une marionnette dans les mains osseuses du moufti.
« Vous apprendrez, vous aussi, à vous servir de vos ennemis, »
murmura Barofil le 24e.
« Parfaitement canalisés, ils deviendront les plus sûrs de vos alliés. Pour compléter les réponses à vos deux autres questions, nous ne nous sommes pas exprimés plus tôt au sujet de l'Église. » Parce que nous voulions mener notre dernière tâche à bien, qui était celle de vous guider jusqu'à la fonction suprême. Nous avons consacré l'essentiel de notre énergie à aiguiller nos ennemis sur de fausses pistes. Il aurait probablement été fatal pour vous que nos ennemis deviennent prématurément les vôtres. Jusqu'au bout, nous avons agi dans la perspective de préserver l'effet de surprise, de prendre nos prédateurs de court. Nous sommes conscients d'avoir été un berger médiocre, empêtré dans les bas instincts qui gouvernent le troupeau. Avant de partir vers les mondes infernaux, nous ne croyons certes pas à l'enfer, mais, par paresse, nous employons les formules pratiques que nous servons aux esprits simples. Nous avons tenu à accomplir notre dernière œuvre, celle de nous choisir un digne successeur. Et si nous nous confions à vous ce soir, c'est que le moment est venu de vous révéler l'envergure de votre rôle. Ne nous sommes-nous pas trompés ? Aurez-vous les épaules assez solides, cardinal Bogue, pour porter cet immense fardeau. L'enjeu est de taille, la pérennité de la race humaine. Au même titre que Dame Cybrite, au même titre que les guerriers du silence dont vous avez certainement entendu.
« Les guerriers du silence ? » l'interrompit Fraciste Bogue. « Ce ne sont que de simples légendes. »
N'oubliez jamais la dichotomie entre le troupeau et le berger. Le troupeau transforme en légende ce qu'il ne comprend pas. Le berger cherche à comprendre et ensuite, mais ensuite seulement, il transforme la réalité en légende s'il le juge nécessaire pour le bien de son troupeau. Nous avons toujours considéré l'existence des guerriers du silence comme une réalité. Et les rêves de Dame Sibrit nous ont confortés dans cette certitude. Ils œuvrent dans l'ombre contre l'Hyponéros. Ils possèdent ces pouvoirs providentiels que leur prêtent les légendes. Cette Naya Fikit n'est autre qu'Afikit Alexou, la fille de Sri Alexou, un maître de la science indique, assassiné par les bons soins du connétable Paminx. Ce Sri Lumpa n'est autre que Tixou Oti d'Orange, un petit employé de la CILT qui a échappé par miracle à l'inspobot de la compagnie lancé à ses trousses. Au même titre que les guerriers du silence, disais-je, et bien que sur un autre plan, vous êtes l'ultime espoir des humanités.
Visiblement fatigué, le moufti retourna s'asseoir sur la banquette. La nuit se déployait maintenant sur Vénitia, estompait les reliefs. Les bulles qui flottaient sous les moulures du plafond s'emplirent lentement de lumière blanche.
« Vous estimez-vous capable de résister à l'effacement, monsieur le secrétaire général ?»
La question déconcerta Fraciste Bog, pétrifié devant la baie. Il n'avait jamais envisagé d'être la cible des effaceurs, sacrés ou profanes. « Je n'en ai aucune idée, votre sainteté. »«
Votre franchise vous honore, cardinal Bog. Nous affirmons que vous êtes un effacé. Sans que vous le soupçonniez, on vous a implanté un programme mental spécifique dans le cerveau. »
Fraciste Bog se retourna avec vivacité et darda un regard à la fois incrédule et vipérin dans le vieillard aux allures de gargouille recroquevillée sur la banquette.
« Comment osez-vous affirmer semblable stupidité, votre sainteté ? »
lâcha-t-il d'une voix sourde, oubliant qu'il s'adressait au pasteur infaillible, au chef suprême de l'église du Kreutz, à l'un des individus les plus redoutés, après le sénéchal, mais avant Menati Imperator, de langue empire.
Nous vous avons déjà expliqué que rien de ce qui se trame dans ce palais ne nous est étranger, répliqua calmement le moufti. On vous a implanté un programme mental d'assassinat. Vous êtes ici pour me tuer. « Cardinal Bog, il n'est pas de pouvoir sans tache de sang sur les doigts. »«
Absurde ! Vous avez certainement été induit en erreur, » glapit le secrétaire général hors de lui.
« Votre contrôle, cardinal Bog, ce programme ne se déclenchera que dans... »
Il consulta du regard la pendule holographique enchâssée dans une cloison.
« Le temps passe si vite. » Dans 15 minutes, et vous ne vous rendrez compte de rien, ni avant, ni pendant, ni après. Vos amis les vicaires se sont montrés habiles pour une fois. Non seulement ils vous chargent de la sale besogne, mais ils exploiteront ce meurtre à leur avantage. Ils exerceront sur vous un chantage permanent. Ils ont d'ores et déjà accumulé les preuves qui établissent votre culpabilité. Ils pensent ainsi prendre le contrôle total de l'appareil de l'Église. Je me laisserai tuer sans résistance, monsieur mon assassin. Il est plus que temps pour moi de me présenter devant mes juges célestes. Mes gardes, mes morphopsychologues et mes serviteurs proches sont prévenus de l'imminence de ma mort. Ils ont reçu l'ordre formel de se mettre sans réserve à votre service lorsque vous serez élu moufti. Que diriez-vous de Barophile le 25e comme patronyme pontifical ?
Les yeux de Fraciste Bog s'embuèrent.
Il ne parvint pas à déterminer s'il pleurait sur le vieillard pathétique qui lui faisait face ou sur lui-même.
« Ce sont toutes ces raisons qui m'ont amené à avancer l'heure de notre rencontre. Je voulais avoir le temps de vous divulguer mon testament de vive voix. L'écrit où Lolo abandonne des traces, les paroles s'envolent. Ah oui, on vous a également greffé un programme d'oubli total, ce qui signifie que vous ne vous souviendrez ni de cet entretien, ni du fait que vous m'avez retiré la vie. Il ne s'agissait pas qu'un inquisiteur ou quelque manipulateur mental à la solde de vos ennemis apprenne que le moufti Barofil le 25e a étranglé son prédécesseur pour s'asseoir sur le trône pontifical. Cette information reste l'apanage des vicaires, et ils sauront vous la rappeler si vous ne leur donnez pas satisfaction. Dans un sens, tout cela nous arrange. Les inquisiteurs ne devineront rien de notre conversation et vous aurez les coudées franches.
Mais alors, à quoi aura servi cette rencontre? Le moufti extirpa une plaque ronde, lisse et noire, d'un diamètre de 5 centimètres de la poche intérieure de sa chasuble.
Déshabillez-vous, cardinal Bogue!
Qu'est-ce qui vous prend votre...
Taisez-vous et obéissez. Il ne nous reste plus que 7 minutes. Votre corps ne m'intéresse pas. Comme vous le savez, je n'étais attiré que par les enfants et de cela je répondrai devant le Kreutz. Vous n'êtes pas obligé de retirer votre col encore dans son entier. Il me suffira que vous me présentiez le torse nu. Je vous expliquerai ensuite le fonctionnement de cet appareil.
Subjugué par la voix puissante de son interlocuteur, Fraciste Bogue s'exécuta. Après que sa chasuble mauve eut glissé sur le parquet, il dégrafa les attaches latérales de son col encore pourpre. Il dégagea d'abord la tête, le cou, les bras, les épaules, et se dénuda jusqu'à la taille. Des souffles d'air lui léchèrent la peau et lui couvrirent le dos de frissons. Le moufti lui fit signe d'approcher, puis, d'un geste précis, il apposa la petite plaque ronde sur le sternum. Une douleur fulgurante transperça la poitrine et le ventre du cardinal, qui poussa un hurlement et fit un bond en arrière. La plaque lui incendiait la peau. Il avait l'impression qu'une plaie béante, purulente, s'était ouverte du bas de son cou jusqu'à son pubis.
« La douleur va bientôt s'estomper, »
murmura Barofil le 24e.
« C'est une plaque électromagnétique munie d'une autogreffe cutanée. » Elle présente 2 avantages. D'une part, aucun système de détection, pas même les instruments d'investigation des médecins de la CSS attachés au palais épiscopal, n'est capable de déceler sa présence. Elle fait désormais partie intégrante de votre corps, au même titre qu'un organe. D'autre part, elle émettra à intervalles réguliers des suggestions subliminales qui vous inciteront à renouer avec vos souvenirs, qui vous aiguilleront sur les pistes que vous aurez besoin d'explorer. Comment vous sentez-vous ?
Fraciste Bogue jeta un coup d'œil sur son abdomen et vit que la plaque s'était enfoncée dans son épiderme sans laisser la moindre trace, la moindre cicatrice. Sa peau présentait son aspect habituel, lisse et soyeux. Seul le léger frémissement qui parcourait son plexus solaire trahissait la présence d'un corps étranger dans son organisme.
« Je ne ressens plus aucune douleur, votre sainteté. Je dois parler vite car il ne nous reste que 4 minutes. Cette plaque vous conduira, entre autres, vers une bibliothèque secrète du palais dont elle vous donnera le code d'accès. Vous y trouverez un petit livre-film où le Kreutz expose une méthode efficace pour protéger l'esprit humain des ondes mentales étrangères. Le Kreutz était un maître de la science indique, lui aussi. Cette précision vous éclaire sur les raisons qui ont poussé le sénéchal Arcot à se débarrasser de moi. Il s'est servi des vicaires, comme moi, mais j'avais l'avantage sur lui d'avancer en terrain connu. Eh bien, mon très cher fils, te voilà prêt à coiffer la tiare mufiale.
à passer au doigt le corin don Julien, le sceau, l'objet de toutes les convoitises. Dernière précision. L'éminent spécialiste qui a fabriqué cette plaque autogreffe, une petite merveille de technique et d'intelligence, a malencontreusement trouvé la mort lors d'un accident de personnel. J'ai tellement de sang sur les mains. Un peu plus, un peu moins, qu'est-ce que cela changera à la sentence? Tu es dorénavant la seule personne dans l'univers à connaître l'existence de cet appareil. Il reconstituera peu à peu, je l'espère de tout mon cœur, l'intégrité de ton esprit. Il te suggérera des actions qui te paraîtront parfois farfelues, incongrues. Il te conseillera, par exemple, de rédiger des mémoires mentales conformes à ce qu'attendent le sénéchal et les vicaires de la part d'un souverain pontife. Il t'entraînera dans des combats obscurs, dans des affres de violence et de sang.
Et si, au dernier moment, le haut vicariat renonçait à soutenir ma candidature, argumenta Fraciste Bog en se rhabillant. Si l'un de mes concurrents parvenait à le convaincre de trafiquer en sa faveur le mémodisque du dépouillement du scrutin.
N'aie aucune crainte à ce sujet, mon cher Fraciste. Les châtrés n'ont plus de couilles, mais ils ont de la suite dans les idées. Il ne nous reste que quelques secondes. Adieu, et fasse que le Kreutz te réussisse là où j'ai échoué. Ne fléchis pas au moment de me donner le dernier baiser. Jamais victime n'aura été aussi consentante, aussi heureuse de mourir de la main de son meurtrier. Une mort réussie rattrape peut-être les errances d'une vie gâchée.
Le moufti ferma les yeux et renversa la tête en arrière, comme pour s'offrir à son bourreau. Interdit, Fraciste Bog pressa machinalement les deux cliquets de la broche qui maintenait sa chasuble fermée. Les bulles flottantes inondaient la pièce de lumière blanche. Il se demanda s'il n'avait pas rêvé toute cette histoire, s'il n'allait pas se réveiller en sursaut dans ses appartements du palais épiscopal. Le programme spécifique se déclencha au moment prévu. Des ordres concis affluèrent dans l'esprit de Fraciste Bog. Tendu vers l'efficacité, il se transforma tout à coup en une implacable machine à tuer. Il se pencha sur le vieillard inconnu et vêtu de blanc que la voix intérieure lui commandait d'éliminer. Du pouce et de l'index, il lui comprima la carotide. Il sentit nettement, sur la pulpe de ses doigts, la palpitation de la veine jugulaire, l'écrasement de la chair, le resserrement de la carotide, dont les bords se rejoignirent et empêchèrent le passage de l'oxygène. Le vieillard ne se défendit pas, comme s'il s'était préparé à sa mort, mais des spasmes violents secouèrent son tronc décharné, ses bras et ses jambes battirent l'air avec frénésie. La vie semblait s'être enracinée avec une belle force dans ce corps usé qu'elle faisait les pires difficultés pour le quitter. Un sinistre gargouillis s'échappait de sa bouche entrouverte. Il serra encore, jusqu'à ce que le vieillard s'affaisse comme une chiffe molle sur la banquette, puis s'effondre sur le parquet, entraîné par son propre poids. Après avoir vérifié que le cœur de sa victime s'était bien arrêté, il relâcha son étreinte. Ses doigts puissants, des serres de rapace, abandonnèrent des marques bleues sur le cou de sa victime. Il souleva le cadavre et le réinstalla sur la banquette. Il lui referma délicatement les paupières, occultant les petits yeux tendus d'un horrible voile vitreux. Puis il se dirigea d'un pas tranquille vers la porte. Au cœur de la seconde nuit, une effervescence inhabituelle agita les couloirs du palais épiscopal de Vénitia. Un huissier entra sans frapper dans la chambre du secrétaire général et lui annonça d'une voix brisée par les sanglots la mort du moufti barophile le 24e. Cette nouvelle ne surprit pas vraiment Fraciste Bog. Les vicaires ne lui avaient-ils pas confié, à l'issue de leur dernière entrevue secrète, que le tyran de l'église mourrait au cours de la nuit? Il avait eu tort de douter de leur efficacité. Ils avaient trouvé le moyen de concrétiser leur projet.
C'est un grand malheur, dit-il au novice. Je m'habille et je vous rejoins dans le patio de la tour des Mouftis. Il se leva et passa une chasuble sur son col encore de nuit. Il prit tout à coup conscience que le dernier souvenir qui lui restait de la veille, c'était lorsqu'il était sorti du caveau des Châtrés, escorté par un vicaire et ses six protecteurs de pensée. Il y avait ensuite un grand trou noir dans son emploi du temps. Il haussa les épaules. Ses nouvelles fonctions lui accaparaient le corps et l'esprit à un point tel qu'il était surmené, qu'il avait été probablement victime d'un malaise passager, qu'il s'était couché sans même s'en rendre compte. Suivi de ses protecteurs, il se rendit dans le patio de la tour des Mouftis, où se pressaient déjà la plupart des occupants du palais épiscopal.
« Votre éminence, monsieur le secrétaire général, le Moufti est mort !»
crièrent des novices surexcités. De nombreux cardinaux se trouvaient là, et sous le paravent de leur contrôle mental, se devinait la férocité des guerres de succession, entamées bien avant l'annonce officielle du décès de Barofil le 24e. Les faisceaux de projecteurs mobiles éclaboussaient les massifs de fleurs et la margelle de la fontaine, dont on avait, par respect pour le Moufti défunt, coupé l'alimentation d'eau. Quelqu'un poussa le secrétaire général du coude. Fraciste Bock se retourna. Un large sourire illuminait le visage bistre du vicaire Jaweo Mutewa, son ancien secrétaire particulier de la planète Ugen.
« Votre éminence, c'est pour moi un grand plaisir et un grand honneur que de vous rencontrer, »
déclara le frère Jaweo en s'inclinant respectueusement. « Un plaisir partagé, frère Jaweo, » répondit le cardinal Bog. « Mais nous sommes réunis en de bien pénibles circonstances. » Il ressentit alors une insupportable démangeaison au niveau du plexus solaire. Il eut l'impression qu'un insecte ou un quelconque parasite s'était faufilé sous sa peau et se gorgeait de sa chair. Plus étonnant, plus inquiétant également pour sa santé mentale, il lui sembla que ce parasite lui chuchotait d'imperceptibles mots. Il se dit qu'il avait un besoin urgent de repos. Le chant sacré des morts, repris en chœur par les novices, s'éleva dans la seconde nuit syracusaine.